BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous, c'est BFM Bourse en service concentré hein, chaque jour autour de la clôture et jusqu'à 18h. Service concentré tout au long de l'été et continue bien sûr. Hein, on ne lâchera aucune séance, on est là bien sûr. Le CAC 40 à 6-7 minutes de la clôture, bah, qu'est-ce qu'il nous offre? Une petite baisse. Il perdait 1% quand même en début d'après-midi. On a fini par limiter un peu nos pertes là, en cette fin de séance. -0,2, on verra si ça tient, si on parvient même à basculer dans le vert, pourquoi pas dans un instant. À Wall Street, c'est presque une séance pour rien sur le S&P, -0,1. En revanche, le Nasdaq, c'est compliqué sur la tech aujourd'hui. Le Nasdaq recule de 0,7% après la baisse du Kospi ce matin, par exemple, à Séoul, qui a pesé lourd également. On voit que sur la tech, c'est très compliqué. Puis au sein de cette thématique tech, il y a beaucoup de rotation. On va revenir en détail dessus. SpaceX, oh là là, SpaceX hier est passé sous son cours d'introduction. Là, on est à peine au-dessus, $135.21. On est vraiment sur la tangente pour ce qui concerne SpaceX. On va parler de toutes ces thématiques avec nos trois experts. Romain Daubry pour Bourse Direct est avec nous. Bonsoir Romain.
Bonsoir Guillaume.
Claresco est là aussi, ainsi que Stéphane Déo pour Eleva Capital. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Guillaume.
Welcome, on est ravis de vous retrouver. D'abord, le petit mot quotidien sur... On parlera de la dynamique US aussi, quand même, dans un instant. Vente au détail, Philly Fed, plutôt prometteur, plutôt costaud. Donc la dynamique américaine est toujours là. Mais d'abord, le petit mot d'introduction sur le pétrole. Parce que cette semaine est quand même marquée par le rebond des cours du pétrole. On est à $85 cet après-midi sur le baril de Brent. Alors il recule un tout petit peu le baril de Brent, même si les heurts se poursuivent entre Américains et Iraniens. On a le sentiment que la prime de risque géopolitique fait du surplace depuis que le pétrole est remonté en début de semaine. Stéphane?
Bah, oui, moi j'ai un peu l'impression que le pétrole devient de moins en moins pertinent pour les marchés. Alors ça ne veut pas dire que ça n'a aucun impact, évidemment. Mais au beau milieu de la guerre, on nous disait bah, une fois qu'on réouvrira Hormuz, vous allez avoir les prix qui vont baisser. Mais on ne peut pas vraiment baisser au-dessous de 80 parce qu'il faut reconstituer les stocks, il faut relancer la production, etc. etc. On est passé au-dessous de 70 très vite. Là, on a de nouveau des problèmes géopolitiques, on remonte à 80-85, mais en gros, on remonte là où on devait être en période de calme plat. Donc finalement, je trouve que, ben, c'est ce que vous dites, la prime géopolitique, elle n'est pas énorme. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que finalement, on a trouvé beaucoup de moyens de d'augmenter la production et de ne pas passer par le détroit d'Hormuz. Je vous rappelle les chiffres. Grosso modo, c'est 100 millions de barils de jour, la consommation mondiale, un peu plus. On arrondit à 100, comme ça, c'est plus simple. Il y a 10 millions de barils de jour qui passent en période normale par le détroit d'Hormuz. Il y a à peu près 5 millions qui ont été qui passent par le pipeline, donc qu'on a réussi à dévier. Vous avez un peu plus de production au Venezuela. Vous avez le rig count, c'est-à-dire le nombre de forages qui progressent aux États-Unis. Donc, bon an, mal an, finalement, le déficit qui devait être de 10 millions, il s'est réduit à 5 millions, puis à probablement 2 millions de barils en moins. Finalement, le déficit n'est pas si colossal.
Puis il y a une demande chinoise, par exemple, qui ralentit peut-être, parce qu'on a des chiffres chinois hier un peu décevants sur la croissance.
Et ça, c'est le deuxième point, c'est que en fait, alors ça, je ne peux pas vous le prouver, parce qu'on n'a pas encore assez de données, mais on a vraiment l'impression que la demande s'est ajustée à la baisse de manière très nette. Alors, ce qui est évident, c'est que les importations chinoises sont effondrées. Donc, ils ont puisé dans leur stock, ils se sont débrouillés. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus structurel. Si vous pensez en particulier aux pays d'Asie du Sud-Est qui ont eu énormément de problèmes avec ce choc pétrolier, bah, ils ont beaucoup poussé pour l'électrification.
Bravo.
J'y suis arrivé.
Joli.
Pour tout un panel de mesures qui fait que la demande a probablement structurellement pris un coup, et du coup, ben, le prix du pétrole n'explose pas.
Oui, alors Total Energy s'est exprimé justement face à ces cours du pétrole. Ils attendent un bon deuxième trimestre en termes de publication, Total Energy, Alain, même si sur GNL, en revanche, c'est compliqué, parce que les volumes d'échanges de GNL, eux, se sont effondrés, prévient Total Energy. C'est une façon de prévenir quand même le marché sur ce point du GNL.
Oui, le titre n'a pas très bien réagi, d'ailleurs, il est en baisse de 2%. Il était en baisse de 2%.
Il perd 1,6%.
C'est vrai que Total, on a toujours dit qu'ils étaient assez exposés au Moyen-Orient, mais notamment sur le gaz, puisqu'ils ont pas mal d'expositions au Qatar, et là, effectivement, ça passe plus. Mmh. C'est quand même à peu près, autant sur le pétrole, c'est pas beaucoup, mais sur le gaz, le Qatar et l'Iran, mais c'est un peu lié, ça représente, je crois, 20-25% de l'exportation mondiale de gaz de GNL. Mmh. Donc là, il y a un manque qui est plus important. Rappelons aussi que dans les stockages en Europe, le restockage, on est très en dessous des années précédentes, et jusque-là, En fait, on a l'impression que les acheteurs attendaient justement une sorte de détente pour pouvoir restocker pendant l'été. Là, on voit que c'est en train de se refermer. Ce serait intéressant de voir ce qui se passe sur le gaz parce que peut-être au mois d'août, comme c'était le cas la première année de l'Ukraine, ils s'étaient réveillés en disant bah, maintenant, il faut être un peu plus fin octobre et il pouvait y avoir un corner sur les prix du gaz. Donc attention, effectivement, sur le gaz, c'est plus complexe que sur le pétrole. Et pour compléter ce que disait Stéphane, je vois aussi la Chine, elle a probablement des stocks qu'on ne connaît pas, mais qui ont permis d'amortir. Mmh. Et puis, ils ont toujours aussi ils ont une électrification. Enfin, le renouvelable progresse très vite chez eux. Et ils ont quand même en réserve le charbon qu'ils ont probablement réactivé un petit peu en substitution. Donc, ça a aidé aussi à absorber le choc.
Alors, on parlera du reste dans un instant. Publicis, qui a publié au-dessus des attentes, c'est la plus forte hausse du CAC, plus 2,5. On verra si ça tient en clôture dans 3 minutes, la clôture. Et on reviendra sur deux CRSI qui apportent une réponse, là, au fond Grizzly. Alors, ça, c'est très suivi par les particuliers. Cette réponse, pour l'instant, n'a pas l'air de convaincre complètement les investisseurs, puisque deux CRSI reculent encore aujourd'hui de 8%. Alain, vous nous direz ce que vous en pensez. La riposte de deux CRSI est-elle vraiment si peu convaincante qu'elle mériterait cette baisse qu'on observe aujourd'hui? Le CAC a moins 0,2. On a quand même une dynamique américaine qui tient, hein, la croissance américaine, en tout cas la croissance. Les ventes au détail, elles progressent comme attendu de 0,2%, mais surtout dans l'industrie, le Philly Fed est largement, très largement, 4 fois supérieur aux attentes, là.
De toute façon, depuis le début, aussi bien en top-down qu'en bottom-up, les publications de résultats, les banques américaines et les quelques résultats qu'on a eu en Europe sont pour l'instant, objectivement, à part IBM peut-être, mais tous très bons. Donc, du côté, c'est pas forcément toujours salué, malheureusement, en bourse, mais la réalité, c'est que les résultats sont bons. La macro est quand même étonnamment bonne par rapport à tout ce qu'on a subi. Donc, je dirais, le marché est peut-être dans une phase un petit peu de digestion, il se cherche, il a du mal à accepter les bonnes nouvelles. Mais pour autant, les fondamentaux, aussi bien globaux que micro, restent très bons pour l'instant.
On entre dans une phase où, je rebondis sur ce que vous dites, Stéphane, les marchés ont du mal à accepter les bonnes nouvelles.
Oui, ce que je regardais, c'est un peu ce que décrit Alain, j'espère pas me tromper sur les chiffres, mais je crois qu'il y a 6 entreprises de la tech qui ont déjà publié aux États-Unis. Les 6 étaient au-dessus des attentes, donc des très bons résultats. Il y en a 5 qui ont dévissé sur les résultats. Il y en a qu'une seule qui est montée. Donc il y a une vraie question de digestion des résultats. Je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que vous avez des titres qui ont énormément monté. Alors dans notre jargon, on appelle ça le momentum, c'est-à-dire les titres qui ont monté continuent à monter. Donc vous achetiez ce qui avait déjà monté parce que ça continuait. Et là, vous avez un espèce d'effet retour où peut-être qu'on a trop tiré sur l'élastique et donc les titres qui avaient été oubliés ont tendance à rebondir. La conso, par exemple, aux États-Unis, qui fait très très bien, a très très bien fait hier, a très très bien fait aujourd'hui. Et par contre, ces titres qui avaient déjà pricé beaucoup 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 de hausses sont un petit peu plus à la peine avec des gens qui prennent des bénéfices. Bon exemple, c'est TSMC qui publie des résultats canonissimes.
Record en hausse de plus de 75%, oui.
C'est stratosphérique et ça perdait 5% à l'ouverture. Là, ça remonte. Alors, je ne sais pas où on est parce que ça bouge très très vite. Mais c'est étrange d'avoir une performance négative sur ce titre avec des résultats de cette équipe.
La pression là sur la tech avec les publications qui arrivent. Il est 17h36, messieurs, on est ensemble en direct. C'est la clôture, on la vit ensemble. Et oui, le CAC 40 termine quasi stable, moins 0,05%, 8377 points en clôture. L'Eurostock 50, lui, termine en hausse, c'est mieux que le CAC, plus 0,3% l'Eurostock 50. Le CAC 40 peut être aussi plombé par les taux français, on en parlera. Le 10 ans français est à 3,94 en ce moment. 3,94, le 30 ans français sur des plus hauts depuis la crise Lehman. Il y a un signal français aujourd'hui manifestement sur le marché obligataire. Le 10 ans français d'ailleurs est à égalité avec le 10 ans italien. Alors du côté des valeurs, celles qui se distinguent, en légère baisse, en baisse assez marquée, ST Microelectronics, on évoquait la tech, moins 5% aujourd'hui. Schneider Electric aussi perd 2%. Après une publication dans le secteur pas si mauvaise, Alain, vous me l'expliquerez. Pourtant Schneider recule, Legrand aussi recule de 2%. Puis on a Capgemini, toujours dans la tech, qui perd 1,8%. À la hausse donc Publicis qui a publié gagne 3% ce soir. Ricard aussi gagne 3%, et puis Danone gagne 1,2%. On reviendra aussi, comme promis, sur deux CRSI qui ripostent après les accusations du fonds Grizzly. C'était il y a quelques semaines, le titre de CRSI avait sur le coup perdu plus de 40%. Aujourd'hui, malgré la riposte, la baisse continue, moins 8% encore. Ce soir, en clôture pour deux CRSI. On en parle avec Romain Dobré aussi, il est avec nous, puis Bourse Direct. Romain, quel signal cette clôture envoie-t-elle pour la suite?
C'est pas mal, c'est du mieux pour l'indice CAC 40, on progresse, on termine quasiment à l'équilibre finalement, puisqu'on a été quand même nettement en baisse, donc on s'est repris tout au long de la séance, dans un volume modeste de 3 milliards 2. On se rapproche du premier plafond de verre, c'est la zone du gap baissier qu'on avait ouvert le 8 juillet dernier, à ce niveau de 8 385 points. Il faut aller chercher 8 435 pour invalider le mouvement de baisse l'accélération baissière qu'on a connue à ce moment-là. Et pour réactiver la hausse, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher des niveaux cibles aux alentours de 8 624. On voit par ailleurs qu'il y a pas mal de dossiers qui sont en train de compresser. On voit le luxe qui avait payé hier, qui a ouvert une légère baisse et qui finalement était en tête du palmarès ce soir aussi. Donc le petit mouvement de mieux se confirme. On est peut-être un petit peu plus optimiste avant les publications et grâce à Richemont hier. On voit Pernod Ricard aussi qui compresse dans une zone intéressante. Il pourrait avoir des surprises positives sur l'indice parisien enfin.
C'est vrai, alors on l'espère. Vous dites clôture plutôt encourageante pour la suite. Il y a aussi Publicis, plus forte hausse ce soir après sa publication. Alain, Publicis, ils relèvent légèrement leur prévision de croissance organique. Comment est-ce que vous estimez que le marché réagit? Plus 2, c'est pas non plus énorme en termes d'enthousiasme.
Non, en fait, Publicis, dans les médias, globalement, sont un secteur où il y a beaucoup de craintes de disruption de l'IA. Alors, il se trouve que Publicis, c'est la société qui a le plus investi dans ce domaine, qui est le leader, celle qui gagne le plus de parts de marché et qui a une forte présence aux États-Unis. Donc, elle surperforme assez régulièrement. Et là, avec ces résultats, elle montre qu'elle est toujours bien dans la course. Donc, ils ont revu de 0,50% leur guidance pour l'année. Ils visent plutôt 4,5-5 au lieu de 4,5 avec des marges en amélioration. Donc, l'historique est bien. Maintenant, en termes de multiples, ça se paye à peu près 10-11 fois les résultats.
C'est
alors, c'est plutôt au-dessus de la moyenne des... Chez Havas, on est à 8 fois, WPP, on est à 5 fois,
c'est
une recovery. Mais pour autant, par rapport aux historiques, par rapport à la génération de cash, ça reste quand même relativement pas cher. Donc on voit que le marché reconnaît que Publicis est le meilleur, mais dans un secteur qui reste un peu compliqué. Néanmoins, je trouve que cette publication est assez constructive parce qu'elle montre bien que dans l'IA, les sociétés en niveau pub auront quand même besoin de gens qui vont les aider là-dessus. Et là-dessus, Publicis est plutôt bien placé.
C'est ça, et c'est ce qu'estime aussi JP Morgan. Pour JP Morgan, la publication de Publicis continue de creuser l'écart avec ses concurrents. Pour JP Morgan, la croissance organique du revenu net du groupe dépasse d'environ 6 points de pourcentage celle de ses principaux pairs en moyenne, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. Stéphane, Publicis, vous aimez ce titre? Plus 3 ce soir, j'ai dit plus 2, c'est plus 3, il ne faut quand même pas leur enlever le 3.
Oui, moi je trouve ça très intéressant parce qu'on a classé a priori toutes ces entreprises de ce secteur parmi les perdants de l'intelligence artificielle. On s'aperçoit effectivement, comme l'a dit Alain, que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ça permet en fait de gagner des parts de marché pour ceux qui savent bien s'en servir. Donc c'est un beau titre. On n'en a pas en portefeuille, mais ça se regarde très clairement.
Romain, un petit mot sur Publicis, plus 3. Donc ce soir, c'est bien, c'est la plus forte hausse du CAC. Après, on ne sent pas non plus une forme d'énergie vitale absolue, quoi.
On avait des attentes très positives autour de Publicis, donc elle s'en sort bien parce qu'en général, c'est plutôt la douche froide dans ces cas-là, malgré la bonne publication. Donc effectivement, ça explique en partie le manque d'entrain, mais 3%, c'est quand même la plus forte hausse de l'indice CAC 40. On vient de toucher une cible importante à 92,10. Tant qu'on est au-delà de 85, 86, eh bien la cible, c'est 101,40, donc ça reste haussier pour Publicis.
Ce soir, Vinci et Aéroports de Paris aussi doivent publier, là, après la clôture. On va continuer de parcourir les valeurs du jour de CRSI aussi dans un instant. On viendra aussi sur ASML qui rebondit ce soir après sa petite baisse d'hier en clôture, plus 3%. D'abord, Stéphane, c'est quand même l'autre fait marquant de cette séance, les taux qui montent. Alors les taux, il n'y a pas que les taux français, hein, le 10 ans américain monte aussi à 4,57. Le 10 ans français est à 3,94. On est vraiment dans l'orbite des 4% désormais. Le 30 ans français, lui, est sur un plus haut depuis la crise Lehman.
Oui.
On s'est longtemps dit, les déficits, la dette, c'est pas grave parce qu'on emprunte à pas cher. On emprunte à cher maintenant.
Oui, alors, c'est pas grave, j'ai jamais dit ça, moi.
Mais... Non, on s'est beaucoup dit en France que...
Voilà. Oui, que c'était pas grave.
Les politiques, mais pas nous. Oui.
Pour moi, pour l'instant, c'est pas très inquiétant.
On reste
sur les niveaux. Alors, pour l'instant, on reste sur les niveaux italiens. En fait, on s'est collé grosso modo sur le. Alors, je vous le fais à la louche, mais à 10-20 points de base de près, on est maintenant au niveau de l'Italie ou en tout. Ce qui veut dire que le marché nous dit que la notation est en fait beaucoup plus basse pour la France que celle qui est officielle. Pour l'instant, tant qu'on reste dans cette zone-là, ce n'est pas une zone qui, pour moi, est inquiétante. Par contre, effectivement, à un moment donné, si ça décale, ça peut devenir très vite.
Mais pas inquiétante parce que vous ne voyez pas d'effet Liz Truss au sens où, d'un seul coup, le marché ne se met pas à mettre le feu partout. Mais il n'empêche, une dette qui, il y a quelques années encore, était à taux zéro, voire négative, maintenant, on la roule à quasiment 4%.
Il y a deux choses.
Il y a un rapport, juste pour circonstancier encore les choses, un rapport a été remis au gouvernement là, ces dernières heures sur le décrochage des finances publiques. Et d'après ce rapport, à politique inchangée, les intérêts de la dette en 2030 atteindront 124 milliards d'euros.
Ouais. 124 milliards. On irait vers 7% de déficit.
Oui, c'est ça.
Tout le monde sait bien qu'il faut faire quelque chose. Les politiciens repoussent. Après, probablement que la réémergence de Marine Le Pen a, toutes choses égales par ailleurs, probablement un petit peu détérioré la perspective sur la France. Parce qu'elle passe pour être un peu moins orthodoxe potentiellement que Bardella, même si tout ça est assez flou. Mais de toute façon, pour l'instant, il y aura peut-être des débats sur le budget, mais je ne pense pas qu'il y ait des grosses attentes sur le budget 27, puisqu'on sait bien que ça va être du statu quo. Donc tous les éléments qui pourraient aller soit dans le bon sens, vers plus d'orthodoxie, ou au contraire, vers un lâchage des vannes total, ça va être l'année prochaine pour le budget 2028, j'imagine, mais qui sera largement anticipé en fonction des succès électoraux des différents candidats. Donc pour l'instant, le marché est plutôt dans une phase d'attente. On est remonté à 80 bips de spread. Oui, c'est comme disait Stéphane, c'est comme l'Italie. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, bon, on attend.
L'écart de taux entre la France et l'Allemagne, il était 60 points de base début juin. Maintenant, il est de 80. On a pris 20 points. Alors, c'est pas énorme, hein, c'est pas historique, mais quand même, là, on voit une forme de...
J'allais dire, depuis la dissolution, les 80, c'était plutôt la norme. Hein, donc, jusque-là, pour l'instant, c'est pas génial, mais c'est under control, on va dire.
Pour moi, il y a deux questions. Il y a une question de long terme, qui est la soutenabilité des dépenses publiques. Bon, ben, le rapport que vous venez de citer dit ce que...
On sait
qui enfonce des portes ouvertes. Enfin, je suis désolé, il est probablement très très bien fait. Mais en fait, si vous faites à politique constante, ben, votre dette, elle croît et de manière exponentielle. Parce que plus vous avez de dettes, plus le service de la dette est important, donc ça creuse le déficit. Du coup, vous stockez encore plus de dettes l'année d'après. Donc ça part en... Donc ça, bon, c'est... désolé, c'est comme ça. Il faut faire quelque chose.
Mais plus vous mettez d'eau, plus le bain monte.
C'est comme ça. Donc ça, c'est le problème de long terme. Et il y a bien un moment où il va falloir faire un demi-tour. Et après, il y a plus un problème de court terme. C'est à quel moment le marché prend vraiment peur. Et pour l'instant, cette histoire de non-soutenabilité de la dette, j'aurais pu vous la raconter il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a deux ans.
Cinq ans.
Et tant qu'il n'y a pas... Oui, il y a cinq ans. Et tant qu'il n'y a pas un choc... soit un choc politique, soit un choc extérieur, soit autre chose, ben oui, on est à 80, 90. Moi, je préférerais être à 0 ou à 20 en spread vis-à-vis de l'Allemagne. Mais 80, 90, c'est très, très loin d'un...
Oui, c'est notre moyenne, mais sur des niveaux plus élevés de taux. Quoi. 80, 90 d'écart de taux, c'est pas la même chose à 3% qu'à 4%.
C'est aussi
on est quasiment à
4%. Un point à signaler, c'est que... On a eu, là, ces deux derniers jours, des publications assez intéressantes sur l'inflation qui est en nette décrue aux États-Unis. Enfin, c'est assez logique vu la baisse des prix du pétrole. Maintenant, quid avec la remontée des prix ? Est-ce que cette désinflation est durable ? Et l'autre point, c'est quand même que les taux américains sont assez tendus. Le 30 ans est repassé au-dessus de 5. Et on a vu la semaine dernière, notamment Amazon, qui voulait émettre, je crois, 30 milliards de dollars, enfin des GAFA, qui sont obligés de... où ça n'a pas été très souscrit. C'était un peu mou du genou. Donc, quelque part, y a toujours cette question sur les souverains qui ont des déficits budgétaires un peu intenables, un peu aux États-Unis aussi, mais aussi des corporates. Et ça, c'est peut-être une conséquence aussi de l'IA, où on voit pas mal de sociétés historiquement cash-rich qui, voilà, évidemment, Oracle, mais même des gens comme Alphabet, ils ont quand même fait une augmentation de capital. Amazon, donc, lève de l'argent, et on voit que le marché commence à être un peu plus regardant, il veut être mieux rémunéré, donc ça crée aussi une petite concurrence.
Et même entre États.
Et ça contribue un peu à cette tension sur les taux, c'est le boom de l'IA ne concerne pas que l'equity, il ponctionne aussi les marchés obligataires.
La compétition, la concurrence du corporate et la concurrence entre États, l'Allemagne désormais aussi lève beaucoup plus de dettes que par le passé, ce qui vient tendre peut-être encore un peu plus nos taux qu'il faudra suivre très très près cet automne avec les débats budgétaires dont il faudra sans doute attendre aucun miracle en cette année effectivement électorale présidentielle. Le CAC a clôturé, c'était il y a 10 minutes, à moins 0,05%. Une valeur se détache, Sodexo, vous parliez de Meta, des acteurs de la tech américaine, Sodexo, ils annoncent avoir signé un contrat avec Meta, Sodexo va couvrir l'ensemble des lieux de travail de Meta, apporter de la restauration collective partout chez Meta à travers le monde, sur plus de 130 sites dans plus de 30 pays. Sodexo confirme que c'est un des plus importants contrats qui n'ait jamais remporté. 2% de hausse Sodexo ce soir, Alain.
Oui, alors Sodexo, ils montent aussi parce qu'ils ont leur leur Investor Day aujourd'hui,
oui.
dans lequel le nouveau management explique en quoi ils vont, entre guillemets, restaurer la croissance. Hein. Donc l'objectif, comme dans tout ce genre de secteur, c'est de remonter à 5% de croissance organique d'ici la fin de la décennie, ça me rappelle Ipsos. Mais on dit qu'aussi, évidemment, à court terme, ça va plutôt être 2-3, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à remettre en place. Donc oui, c'est un métier relativement stable, assez défensif, mais en même temps, il y a de la disruption. Les cantines, les gens vont quand même moins au bureau. Il y a quand même pas mal de questions autour de tout ça. Et je dirais que le marché aujourd'hui achète en partie parce que la valorisation est faible. Mais quand même, c'est un secteur, la restauration collective, où il y a encore un certain doute. Et je pense que le marché va vouloir attendre de voir pour payer.
Dans les autres valeurs à suivre, toujours à Paris, Air Liquide gagne ce soir 1%. Air Liquide qui confirme son lien, alors un peu plus éloigné hein, que beaucoup d'autres groupes, que Schneider par exemple ou Legrand de l'IA, mais quand même un lien, puisqu'Air Liquide nous dit investir 160 millions de dollars dans un site de fabrication de puces aux États-Unis, plus 1% ce soir Air Liquide. Le lien, vous le faites ouais, avec l'IA de plus en plus
Oui. En Europe, il y a un certain nombre d'entreprises comme ça qui bénéficient indirectement de l'IA. Il y a des entreprises dans l'énergie, Siemens Energy par exemple, l'Air Liquide aussi. Alors évidemment, vous n'avez pas un impact direct aussi important que certaines valeurs aux États-Unis, mais c'est un moyen de jouer les fournisseurs de l'IA qui ont très très bien performé récemment.
Oui. Romain est avec nous d'un point de vue technique et graphique. Romain, ce titre Air Liquide, vous le suivez? Est-ce qu'il est au bord d'une rupture ou d'un seuil important? On termine à 177 euros ce soir.
Ben effectivement, le message donné par Air Liquide, on était très positif dessus. La semaine dernière, c'est pas génial. On a formé ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. La bougie de la semaine dernière a ouvert au-delà de la bougie de la semaine précédente et elle a clôturé sous la médiane. C'est un signe de coup d'arrêt et on voit que cette médiane, elle est toujours testée dans le courant de cette semaine. On n'arrive pas à la réintégrer. Donc attention à des petits signes de fragilité à court terme. Sous 168,50, on pourrait accélérer un peu. La cible idéale dans ce cas-là, ce serait 155, donc un mouvement de retracement un peu marqué. Tant qu'on préserve ces niveaux, l'extension c'est 190, mais encore une fois, la configuration invite un peu à la prudence à court terme en tout cas.
Ce qui marque cette clôture aussi, merci Romain, on vous retrouve dans un instant nouveau, c'est la baisse des valeurs tech quand même, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le Nasdaq ce soir perd 0,8%, puis à Paris, quelles sont les plus fortes baisses, Alain? STM, moins 5, Schneider Electric, moins 2, Legrand, moins 2, Capgemini, moins 2.
Oui, ça vient en partie des marchés asiatiques. Hein, donc, à part SML qui s'est repris en fin de séance, mais le résultat était exceptionnel hier et elle avait terminé à zéro en fin de séance hier. Le reste de la tech est plutôt attaqué. Alors, on note aussi dans la tech ce que j'appellerais les semis un peu plus low-tech, type Micron, type STM, type Infineon. Il y a peut-être cette idée aussi que les Chinois commencent à arriver avec une concurrence low-cost. Alors, ça ne concerne pas SML, hein, bien entendu, ou Nvidia, mais sur l'entrée de gamme qui a objectivement, les titres ont extrêmement bien fonctionné en suivi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce que j'appelais les semis de premier rang. Puis après, il y a eu les semis de deuxième rang. Je dirais même, il y a la troisième division avec des X-Fab ou des Soitec. Moi, j'avoue, vous avez vu comme Soitec est revenu en arrière depuis, d'ailleurs. Et là, on note un petit peu de faiblesse des semis, ce que j'appellerais de deuxième rang. C'est-à-dire ceux qui sont un peu volumétriques et où la question peut-être d'une concurrence chinoise apparaîtrait. Et ce matin, on a eu aussi les résultats d'ABB qui étaient pourtant très bons, avec en plus une acquisition chère mais intéressante. Tout le monde s'attendait à ce que ça monte et le titre a perdu 4%. Et c'est cette baisse en fait qui a entraîné Schneider et Legrand dans sa foulée. Et donc les deux titres baissent de 3%. Rappelons que Schneider n'a pas tant monté que ça depuis le début de l'année. C'est une valeur beaucoup plus diversifiée et où la valorisation est assez intéressante. Donc on verra les résultats.
Mais est-ce que sur les publications des hyperscalers américains, là, s'il y a des déceptions sur le retour sur investissement, tous ces investissements annoncés dans l'IA, s'il y a déjà des déceptions ou que le marché en sort frustré, est-ce que c'est l'ensemble du segment tech qui en pâtira en disant bah, ils vont moins investir du coup à l'avenir, du coup il y aura moins de demandes pour les semi-conducteurs, moins de demandes pour Schneider Electric aussi. Est-ce que là, tous les segments tech vont jouer leur peau dans ce qu'annonceront les hyperscalers dans cette saison de résultats, Stéphane?
D'une certaine mesure, oui, parce qu'il y a un vrai sujet maintenant sur la rentabilité de tous ces investissements. Je vous rappelle qu'on n'est pas loin de 2000 milliards de dollars d'investissement. C'est quand même... pour moi, c'est quasiment impossible de rentabiliser ça à des niveaux acceptables. Donc oui, il y a une vraie question. Après, ces hyperscalers, pour l'instant, ne montrent aucun signe de ralentissement. Un des messages de TSMC, c'est qu'ils vont investir énormément. S'ils investissent énormément, c'est qu'ils ont de la demande, c'est des gens extrêmement prudents. S'ils ont de la demande, c'est qu'ils ont reçu un coup de fil des hyperscalers récemment en leur disant, écoutez, il nous faut encore plus de puces que ce qu'on avait. Donc oui, sur la question, est-ce qu'on va avoir un coup d'arrêt dès cette saison des résultats? Moi, j'en doute fort.
une exception dans la tech, enfin un ovni quoi, c'est SpaceX sous son cours d'introduction à l'instant. Oui. Il est en baisse ce titre oui. d'1%, 134,36$. On repasse, c'était déjà le cas hier, mais ça se confirme aujourd'hui sous le cours d'introduction. Après une envolée de plus de 30% les premiers jours.
Oui, mais en fait ils ont créé une espèce de squeeze de marché, oui. de manque de titres. Du coup le titre s'est envolé parce qu'il y a beaucoup de gens qui en voulaient et qui n'en avaient pas. Mmh. Et puis, petit à petit, le soufflet redescend. Après...
Mais vous étiez enthousiaste, vous, à l'introduction.
Moi, je reste enthousiaste.
Vous n'attendez pas à ce que ça repasse
On avait toujours dit qu'il y aurait énormément de volatilité à court terme, que le soufflet pouvait se redégonfler. Par contre, à moyen terme, ce qui est en train d'être fait, c'est impressionnant en termes de réduction des coûts. Là, ils font une tentative demain sur un nouveau lanceur, il pourrait diviser par 3 ou 4, voire plus, le coût de lancement, une fois de plus, des satellites. Donc vous êtes en train d'ouvrir un marché qui est potentiellement colossal. Donc à moyen terme, ça reste quelque chose d'intéressant.
Romain, graphiquement, SpaceX, vous le voyez comment maintenant qu'on est sous le cours d'introduction ?
On est pile sur un support clé, c'est 134,65. Le fait de le préserver est important, sinon on pourrait accélérer un petit peu plus à la baisse. La première cible, elle sera située autour de 120 et la deuxième à 107,80. Donc attention effectivement à un mouvement de consolidation qui est sans discontinu depuis le 16 juin maintenant. Effectivement, ça a été une hype au moment du lancement et pour l'instant, c'est de la prise de bénéfices.
SpaceX, ça vous inspire aussi, Alain, un petit mot ?
Moi, j'en ai parlé sur cette antenne, hein, me semble, mais dans un premier temps, il n'y avait pas assez de titres, hein, parce qu'en fait, on a parlé de 9% de flottant, mais si on enlève les actions B, en fait, c'est 4% du capital qui est flotté. C'est rentré opportunément dans certains indices avec une pondération, d'ailleurs, x3 dans le Nasdaq, on n'a pas compris pourquoi, par rapport au flottant, donc ça crée un appel d'air énorme. Maintenant, attention, parce qu'à partir des résultats trimestriels, il y a tous les employés qui vont commencer à pouvoir en vendre. Et donc, potentiellement, alors qu'on a 4%, enfin, sur les actions A, qui font à peu près un peu plus de la moitié, on a, entre maintenant et les 3-4 prochains mois, potentiellement beaucoup, beaucoup de gens qui pourraient en vendre. S'il est vendu au prix actuel, c'est 500 milliards. Alors, tout le monde ne va pas vendre, bien entendu, mais il faut s'attendre à un retour de papier qui est quand même assez colossal. Et justement, c'est là où on va voir le test. Parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de papier. Il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc, tout le monde s'est arraché le truc, mais il faut voir ce que ça va donner derrière.
Oui. Ce soir, donc, sous le cours d'introduction, SpaceX à nouveau à 134,14$ précisément. De CRSI, comme promis, on en dit un mot, moins 9%. Ils ont transmis un communiqué aujourd'hui de 6 pages pour démonter point par point l'argumentaire de Grizzly Research qui les accuse de fraude et de falsification des comptes. Ça n'a pas l'air de convaincre le marché, la réponse de
CRSI. En fait, d'abord, c'est un titre qui avait énormément monté. Hein, depuis, là, on était à moins de 10€ au deuxième semestre, on est monté jusqu'à 58. C'est clair que quand on rencontre le management, on voit que ce sont des gens un peu cow-boys, un peu approximatifs. Et moi, j'avoue que j'avais pris à peu près vers 10-12€ l'année dernière et puis j'ai commencé à en vendre. Et puis, au-dessus de 50. Et puis là, il est arrivé la mauvaise nouvelle. C'est typiquement le genre de société un peu approximative dans sa communication financière. Et donc, d'ailleurs, Grizzly eux-mêmes, hein, ils ont déjà clôturé leur short. Donc, ça veut dire qu'ils ont profité, en fait, d'une hausse un peu excessive en appuyant sur les côtés approximatifs de la communication financière pour gagner pas mal d'argent, et ils ont eu raison. Maintenant, le PDG s'était expliqué quelques jours après, dans un communiqué que j'avais trouvé sincère, mais sans doute extrêmement brouillon, et qui est à l'image de cette société, etc. Donc aujourd'hui, ils sont arrivés avec un truc un peu plus épais. En fait, la réalité, c'est que, en ce qui concerne de CRSI stricto sensu, qui redit à peu près ce qu'il avait dit avant, et sur les allégations qui sont sur les clients, en fait, ils disent, nous, on n'est pas les clients, donc on ne peut pas s'engager à leur place. Donc, quelque part, c'est cette absence de précision qui, sans doute, agace. Mais en même temps, c'est vrai que c'est en dehors de leur périmètre. Parce que dans l'attaque, il y a des allégations sur la société, mais il y a des allégations aussi sur leurs clients. Et là, en effet, ils ne sont pas vraiment positionnés pour le faire. Alors maintenant, ils ont une publication de chiffre d'affaires qui est jeudi prochain, le 23. Donc là, il faudra regarder attentivement ce qui sort. Moi, je pense que ça ne sera pas si mauvais que ça. Il faut savoir que dans ce titre, les institutionnels sont plutôt assez réservés, ne serait-ce que en raison de la assez mauvaise qualité de la communication financière. En revanche, le retail, lui, est assez... Ils ont des gros fans. Donc, c'est un petit peu une... On va voir ce que ça va donner. Moi, j'avoue que j'ai quand même pris beaucoup de profits. J'ai gardé une toute petite ligne pour voir. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a un problème de qualité de communication financière qui doit s'améliorer nettement. Je ne pense pas que ce soit des escrocs. Mais en revanche, c'est très light. Trop light.
Moins 8 ce soir, ce titre de CRSI. Le CAC termine stable. Demain, Keir Starmer rendra son tablier. En tout cas, la procédure de désignation de son successeur, pour laquelle Andy Burnham est le seul candidat déclaré. Cette procédure de désignation de son successeur doit aboutir demain. Voilà. Donc, une page va aussi se tourner au Royaume-Uni. L'instabilité politique, avant, c'était en Italie. Maintenant, c'est en France et au Royaume-Uni.
Oui, surtout au Royaume-Uni, pour l'instant.
On s'est un peu stabilisé depuis plus d'un an en France. Ouais.
Oui, mais on en est au 7e Premier ministre, je crois, depuis le Brexit.
Exactement.
En 10 ans.
C'est un record en 200 ans, 7 Premiers ministres en à peine 10 ans.
Oui, c'est ça. Dont certains, certaines, Liz Truss, qui ne sont pas restées très très longtemps. Mais oui, il y a un vrai sujet, non seulement d'instabilité politique, mais aussi de croissance économique. L'économie britannique ne s'en sort pas de ce Brexit. Hein. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés, tous les trois. Romain Daubry, qu'on salue depuis les bureaux de Bourse Direct. Bonne soirée, Romain. Stéphane Déo, Léva Capital et Alain Dubrulle pour Claresco. Ce soir, nos trois invités. La clôture, on vous la rappelle, le CAC termine stable à 8378 points. Dans un instant, le débrief de toute l'actualité économique du jour, les grandes perspectives, ce sera avec Erwan Maurice. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.